culture, donc je vais en parler un peu dans mes messages. Et en tout cas, ça fait plaisir de revenir en Belgique et de partager la parole avec vous. Et puis le thème de ce week-end, c'est la maturité chrétienne, ce que c'est et ses applications. Donc je ne sais pas si on va vraiment pouvoir tout faire. En tout cas, j'ai choisi trois passages dans l'épître de Paul aux Colossiens. Donc je vous invite à trouver cette lettre dans vos Bibles. On va juste faire trois passages et voir ce que l'apôtre Paul pense de ce thème-là et voir ce qu'on peut apprendre de lui dans cette lettre. Donc Colossiens, on va commencer avec le chapitre 1. Peut-être avant, je vais prier. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ces moments qu'on va passer ensemble dans ta parole, maintenant mais aussi plus tard dans la journée et puis demain matin. Et notre bon Père Céleste, c'est notre souhait de grandir en Christ, d'être équipé pour te connaître davantage, pour te servir plus fidèlement. Et nous prions que ton esprit soit à l'œuvre parmi nous ce week-end, que Jésus soit exalté parmi nous, dans nos cœurs, dans notre manière de vivre, de marcher. Aidons-nous à marcher dignement de toi. Et Père, nous te demandons maintenant d'être à l'œuvre. Enseigne-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Donc, Colossiens chapitre 1, « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voici notre texte pour ce matin. Alors, il y a quelques semaines, on était chez des amis en région parisienne. Et dans leur jardin, il y avait un mirabellier. Et cet arbre était bien chargé de beaux fruits. On a pas mal mangé. C'était un régal. Et notre ami, notre hôte, nous a dit que cette année, il y avait beaucoup de fruits. Et pour lui, l'explication était à la fois le temps qu'on a eu cette année, mais aussi le fait qu'il avait bien taillé son arbre. Et c'était un arbre bien mieux qu'il avait à peu près peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas. Alors dans cette lettre de Paul aux Colossiens, Paul va évoquer cette maturité, ce que c'est, ce qu'elle produit, comment la poursuivre, comment la vivre au quotidien. On ne l'a pas lu, mais à la fin du chapitre 1, il explique un peu le but de tout son ministère, mais on peut présumer que c'est aussi le but de cette lettre. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le verset 28, à la fin du chapitre 1. C'est lui, donc c'était Jésus, que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ, donc adulte, mûr en Jésus. En Jésus, et on va voir ça au fil de ces messages, que cette maturité est toujours liée à Jésus lui-même, au fait d'être en lui, adulte en Jésus-Christ. Et on va voir ça aussi cet après-midi, il y a un passage un peu plus loin, et peut-être c'est même la clé pour comprendre cette épître. Au chapitre 2, verset 6, on voit à quel point c'est vraiment lié à Jésus. Le verset 6 du chapitre 2 dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés, fondés en lui. » C'est toujours centré sur lui, en Jésus lui-même. Alors, on va commencer avec un premier point ce matin que je vais appeler « le modèle tout simple ». De la maturité, le modèle tout simple, ou les marques de cette maturité. Alors, Paul a écrit cette lettre à l'église de Colosse. Colosse se trouve aujourd'hui, la ville ou les ruines se trouvent aujourd'hui en Turquie, pas loin d'Éphèse. Peut-être certains sont déjà allés en vacances à Éphèse pour voir les ruines de cette ville-là. Colosse se trouve pas loin de cette ville-là. Alors, Paul lui-même n'a jamais été dans cette ville. Il a entendu parler de ces chrétiens parce que Epaphras, qui s'est converti à Éphèse auprès de Paul, venait de cette ville-là. Et lui, il est rentré chez eux. Et donc, c'est lui qui a apporté l'évangile aux Colossiens. Et c'est lui qui a dû dire à Paul ce qui se passait à Colosse. Lui, Paul, on le voit à la fin, se trouve en prison. Il est à Rome. Il ne peut pas se rendre sur place. Mais pourtant, il prie pour cette église. Il a vraiment cette église à cœur et on voit dans cette première partie sa prière, le contenu de ses prières pour cette église. Et on voit dans ce passage que son cœur est dans la joie, son cœur est dans la reconnaissance parce qu'il voit déjà les marques de la maturité chez ses croyants. Et Paul, en révélant en quelque sorte ce qui est dans ses prières, il veut transmettre sa joie, sa confiance en quelque sorte aux chrétiens de Colosse, parce qu'il veut les rassurer. Si on se met à leur place, ils n'ont pas connu l'apôtre Paul, ils ont connu Epaphras. Et peut-être ils avaient besoin en quelque sorte d'être un peu rassurés. Ils avaient accepté la foi chrétienne il y a quelques années. Mais peut-être quelques doutes étaient là. Est-ce que Epaphras nous a tout dit? Est-ce que notre foi est vraiment authentique? On ne connaît pas les autres croyants? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ignore pour vraiment avancer dans la vie chrétienne, pour devenir mûr? Sans doute cette église avait connu des hauts et des bas, comme n'importe quelle église, des déceptions, des chutes, quelques problèmes. Quoi de plus normal pour une église? Et Paul, je pense, il veut les rassurer en leur disant que l'œuvre de Dieu chez vous est tout à fait authentique comme ailleurs. Vous êtes déjà sur la voie de la maturité. Ne cherchez pas autre chose, poursuivez votre chemin. Et je pense que Paul en est persuadé parce que fondamentalement, il voit trois choses. Et on les voit ces trois choses au verset 3 à 5. La foi, l'amour et l'espérance. La foi, l'amour et l'espérance. Et Paul sait que cette église porte ces marques-là parce que Epaphras le lui a dit. On voit ça au verset 8. Il nous a appris de quel amour l'esprit vous anime. Et soit dit en passant, ces marques nous montrent l'œuvre du Saint-Esprit. Si on veut savoir si l'esprit est à l'œuvre dans une église, ben voici les fruits qu'il faut chercher, la foi, l'amour et l'espérance. Pas forcément l'exubérance, pas forcément des miracles, la musique très animée ou des conférences très savantes, érudites. Non, il parle simplement de la foi, l'amour et l'espérance. La foi d'abord. Verset 4. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. Alors, ça peut sembler évident qu'un chrétien doit avoir la foi, mais je pense qu'il faut voir ça dans la durée. C'est cet attachement dans les hauts et les bas de la vie à Jésus-Christ, cette foi persévérante, cette confiance malgré tout au Seigneur. Alors la foi peut être souvent faible, je pense qu'on le sait tous, balbutiante parfois. Personnellement, je puise du réconfort dans ce passage dans Marc 10 où on voit un père qui prie Jésus et il dit à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » La foi peut être faible, balbutiante, mais la foi fondamentalement, c'est cet attachement à Jésus. Les mains vides, les mains grandes ouvertes, comme un enfant qui a besoin d'aide. Cette confiance, même quand les choses sont difficiles. Et la suite de cette lettre nous montre les pièges qui nous guettent dans ce domaine, des pièges où on peut être tenté de mettre de côté cette foi, et la foi souvent glisse, et on commence à mettre notre confiance ailleurs, souvent en nous-mêmes, en nos actions, notre performance, si je peux le dire comme ça, plutôt qu'en Christ seul. On va revenir un peu plus là-dessus cet après-midi. On a besoin sans cesse de revenir à Christ, cette foi toute simple. Il y a un vieux cantique que j'aime bien, qui s'appelle « Coule à flot ». Je pense que la traduction en français est plutôt récente. Et dans le refrain, on chante « Dépendant de cette grâce, chaque jour je suis à toi, que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Prompt à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, je te le tends. Jusqu'au ciel qu'il t'appartienne. » Donc la première marque, c'est cette foi. Une foi, oui, quoique parfois faible, mais persévérante, qui s'attache à Jésus dans les hauts et les bas de la vie. Et ensuite, Paul parle de l'amour. Verset 4, en effet, « Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » C'est-à-dire tous les chrétiens, de par la surface de la terre. Et les Colossiens se sont mis à aimer des frères et sœurs qu'ils n'ont jamais connus, qu'ils n'ont jamais rencontrés. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut créer cet amour-là. Il nous lie à des personnes de par le monde qui aiment le même Seigneur Jésus. C'est pour ça, sans doute, on a déjà évoqué ça ce matin, on prie pour l'Église persécutée. Parfois avec l'aide de l'association Porte Ouverte, on prie pour ces chrétiens qui nous sont chers, mais on ne les connaît pas personnellement, mais on est liés par ce même amour, on est aimés par le même Seigneur. Et sans doute vous priez pour d'autres églises en Belgique et ailleurs dans le monde aussi. L'Esprit nous aide à vraiment réaliser qu'on fait partie d'une famille plus grande, une famille où on appartient tous à Jésus. Et c'est également un amour dans la durée pour les chrétiens autour de nous, dans notre église locale, ici pour vous, l'église de la rue du Moniteur. Et quand c'est l'amour de nos proches, parfois ce n'est pas si simple que ça. Parfois dans une église, il peut y avoir des tensions, des sensibilités différentes, comme dans n'importe quelle famille. Je ne dis pas que c'est toujours bien, ça dépend, mais ce n'est pas anormal, ce n'est pas surprenant. C'est la vie ici-bas. Le fait d'appartenir à Jésus n'enlève pas ça. Mais le fait d'appartenir au Christ nous lie tous à lui qui nous a aimés le premier et son amour que personne d'entre nous a mérité. Et c'est ça ce qui peut nous donner cette tendresse, cette patience pour nos frères et sœurs, même parfois dans des situations difficiles. Comme le Seigneur nous a aimés, comme il patiente encore avec nous, il nous apprend à patienter, à aimer nos frères et sœurs. Et en dernier, on voit l'espérance, verset 5. Je reprends le verset 4. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, l'amour que vous avez pour tous les saints. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser que puisqu'on a la foi, on espère. Mais ici, Paul nous dit qu'à cause de notre espérance, on croit et on aime, ou on continue de croire, on persévère dans la foi et on aime. C'est l'espérance qui est le moteur de cette foi persévérante et cet amour fraternel. Cette espérance nous propulse, nous encourage à continuer à mettre notre confiance en Jésus. Et notre espérance porte sur quoi au juste? On le voit dans ce passage, elle porte sur ce qui nous est réservé au ciel. Qu'est-ce qui nous est réservé au ciel? Plus loin dans l'Épître, Paul va dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et de manière simple, c'est cette espérance d'être avec Jésus, à tout jamais, pour la vie éternelle. Ou d'être présenté à Dieu notre Père, en Jésus, sans faute, sans tâche, et de connaître son accueil dans l'éternité. Connaître Jésus aujourd'hui, c'est notre plus grande joie, c'est le plus grand privilège que nous avons ici-bas, mais le connaître en ce jour-là dépasse toute attente. En quelque sorte, c'est vivre ce pourquoi nous avons été créés. Vivre avec notre Seigneur pour toujours, dans sa présence, dans son jardin en quelque sorte, mais avec nos frères et sœurs ensemble. Et notre espérance porte sur ce jour-là. Et le fait d'avoir cette espérance, d'être animé par cette espérance, c'est une marque, un gage de notre maturité avec la foi, avec l'amour. Pour moi, cette espérance se voit parfois, peut-être même le plus souvent, en tout cas c'est mon expérience, chez les aînés d'une église. Plus on avance en âge, soit on déprime parce que notre jeunesse est derrière nous, et ça peut faire qu'on sombre un peu dans le désespoir ou dans l'amertume, la vie déjà derrière moi. Non, ou soit on regarde vers l'avenir parce que le meilleur nous attend. Moi, je suis reconnaissant pour l'exemple de plusieurs chrétiens, surtout dans l'église que j'ai servi à Paris. Il y avait toute une génération qui est maintenant déjà auprès du Seigneur. Et leur exemple, dans la faiblesse, dans la simplicité, était vraiment un exemple puissant. Ils ont persévéré dans les hauts et les bas de la vie, dans les maladies, et parfois des maladies à la fin qui étaient dures. Mais ils ont gardé cette espérance jusqu'à la fin. Cette foi persévérante, cet amour pour les frères et sœurs de manière simple, avec cette espérance, je vais être avec le Seigneur. C'est ça ce qui m'attend, c'est ça le meilleur qui m'attend. Et peut-être pour vous ici à l'église de la rue du Moniteur, il y a déjà des personnes qui sont déjà auprès du Seigneur, de cette église, qui vous ont donné qui vous ont déjà tracé un peu le chemin et vous gardez un peu le souvenir de ces personnes qui ont gardé l'espérance jusqu'à la fin. Et c'est précieux de se souvenir de leur exemple. La foi, l'amour et l'espérance. Le modèle ou les marques de la maturité. Et la question peut être, qu'est-ce qu'en est le moteur? Quel est le cœur battant de ces choses-là? D'où vient cette foi? D'où vient cet amour? Qu'est-ce qui va m'aider à continuer à espérer comme ça? Et c'est notre deuxième point pour ce matin, le cœur battant de la maturité. Et on va puiser un peu plus loin dans le texte, au verset 5 à 7. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte fruit et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Alors, c'est l'Évangile lui-même qui produit ces marques de la maturité. Il produit la maturité qui se manifeste dans la foi persévérante en Jésus, dans l'amour parfois coûteux pour les frères et sœurs, et cette espérance d'être avec Christ. Plus précisément, et on le voit encore dans ce passage, c'est l'Évangile de la grâce. Vous avez connu la grâce. C'est cette bonne nouvelle bienveillante, généreuse du Sauveur, celui qui est mort à notre place. Et la maturité commence dans cette grâce-là et se poursuit dans cette grâce. Elle se manifeste dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, mais elle a pour source constante cet évangile qui nous a fait connaître la grâce, expérimenter la grâce de Dieu. Et cette source-là demeure la source tout au long de la vie chrétienne. Il y a un vieux cantique que j'affectionne. Mon père le jouait ça au piano quand j'étais petit. Et sans doute, vous connaissez aussi ce cantique. « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qui promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. » On a besoin de revenir sans cesse à cet évangile tout simple, si on veut grandir dans la foi ou d'être présenté à Dieu le Père, comme Paul le dit, adulte en Jésus-Christ. On a besoin de revenir sans cesse à se redire cette histoire de Jésus et l'amour de Dieu. Ce n'est pas une question de commencer là et ensuite d'aller plus loin dans des choses plus compliquées. Non, c'est de revenir à cette source sans cesse. Et ça, c'est ce que vous faites sans doute semaine après semaine à l'Église. C'est un peu le but, dimanche après dimanche. On peut parfois se dire, c'est rebelote, c'est la même chose, mais fondamentalement, on a bien besoin. On se redit dimanche après dimanche l'histoire de la crèche à la croix, parce que nos mémoires sont oublieuses. Et quand on revient là-dessus, ça déclenche cette reconnaissance, cette adoration dans nos cœurs, dans nos bouches. Et c'est pour ça que pour la vie d'adulte en Christ ou pour la vie de maturité, la vie d'église régulière est centrale. Elle est si importante. Si on reconnaît notre faiblesse, si on reconnaît que nos mémoires sont oublieuses parfois, qu'on a besoin de se redire ensemble cette histoire, on doit revenir semaine après semaine, dimanche après dimanche. Et je pense qu'une des marques de la maturité, c'est cette vie d'église régulière, toute simple, pour nous-mêmes, pour nos enfants. C'est incontournable. Cette maturité s'apprend ensemble. Ça ne peut pas être remplacé par quelques vidéos sur YouTube ou quelques chants chrétiens le dimanche matin sur Deezer ou quelque chose du genre. Alors, Paul poursuit dans sa prière et à partir du verset 9, on voit comment il demande au Père d'aider les chrétiens de Colosse à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance. Et je vous invite à jeter un coup d'œil sur le verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et quand on examine l'Épître dans son ensemble, je pense qu'on peut résumer ce que Paul dit ici en disant que le cœur battant de la maturité, c'est cette connaissance de Dieu lui-même. Cette connaissance personnel de Dieu lui-même qui vient par l'évangile. Il nous faut l'évangile, on entend l'évangile, on croit l'évangile, et l'évangile nous conduit à connaître Dieu, être rempli de la connaissance de sa volonté, c'est-à-dire être rempli de la connaissance de Dieu lui-même, d'une connaissance de sa personne, de ce qu'il aime, de ses voies, de sa personne. Si je vous demandais de compléter la phrase suivante, ma vie et ma vie chrétienne iraient mieux si, on aurait peut-être plein de réponses différentes. Ma vie et ma vie chrétienne iraient mieux si j'avais plus de temps à lire ma Bible. Si j'avais un travail plus convenable qui me donnait plus de temps d'aller au truc de l'église en semaine. Ma vie irait mieux si j'avais moins de soucis financiers ou si tel ou tel ne m'avait pas fait ceci ou cela. Si j'arrivais à prier plus. Si mon église était un peu plus comme ceci ou comme cela. Et Paul, je pense qu'il nous dirait, peut-être, mais plus fondamentalement, je pense qu'il nous dirait, et je pense que c'est ce qu'il dit dans sa prière, « En fait, je prie ardemment pour vous, parce que vous avez besoin d'être rempli de la connaissance de sa sagesse. » C'est-à-dire, vous avez besoin d'être rempli d'une connaissance personnelle de Dieu lui-même, en et par Jésus-Christ. Et voilà mon plus cher désir pour vous, Colossiens. Alors, peut-être que vous vous dites, la connaissance de Dieu, tout ça, c'est bien beau. Mais ce que je cherche en premier lieu, c'est quelque chose de pratique, quelque chose qui va m'aider à devenir plus mûr, à une coutume, quelque chose pour faire dimanche, lundi matin. Et encore une fois, je pense que Paul dirait, oui, peut-être il y a des choses concrètes, pratiques, et dans l'Épître, on va en voir. Mais buvez d'abord, avant tout, dans cette source inépuisable, dans la richesse qui est Jésus-Christ. Et ensuite, on parlera de la vie d'Église, de la vie de famille, l'Évangile au travail. C'est cette connaissance de Dieu lui-même qui change, qui nous change, qui nous façonne. Et on voit ça dans la suite du passage, verset 10. La connaissance de Dieu nous permet de marcher d'une manière digne du Seigneur, de lui plaire, de porter des fruits, de faire toutes sortes d'œuvres bonnes, verset 10. Verset 11, on sera fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. On rendra notre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc cette connaissance-là donne une vie changée, plein de choses pratiques, mais le cœur battant de toutes ces choses-là, c'est cette connaissance de Dieu lui-même. Cette connaissance de Dieu qui vient par l'évangile de la grâce. L'évangile nous fait rencontrer Jésus et Jésus nous fait rencontrer son Père. Un Père qui est puissant, un Père qui est sage, un Père qui est tendre, qui patiente avec nous, qui est bienveillant. Et on le voit à la fin de cette prière, le Père qui nous a transportés dans le royaume de son Fils, c'est le Père qui a fait ça. C'est un Père à qui on peut faire confiance. Moi, je trouve que c'est intéressant que lorsque Jésus, juste avant sa crucifixion, peut-être au moment où il était au plus bas, parce qu'il attendait la mort. On le voit dans l'évangile de Jean, il y a cette partie de l'évangile de Jean, à la fin, ou avant sa crucifixion, où Jésus parle de son Père et du Saint-Esprit. Et c'est une partie un peu dense, peut-être parfois un peu compliquée, et les théologiens passent énormément de temps là-dessus. Mais Jésus nous parle simplement de son Père et du Saint-Esprit. Il le fait peut-être d'abord pour lui-même, pour s'encourager, mais il le fait pour fortifier ses disciples, pour les aider à persévérer. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes face aux épreuves, et peut-être il y en a parmi vous ce matin qui passent par des épreuves, et peut-être personne d'autre ne sait que vous passez par ces épreuves, le même antidote, on en a besoin, c'est cette connaissance de Dieu par Jésus-Christ. C'est parfois on se dit, ouais, j'ai peut-être besoin d'autre chose pour me requinquer, mais fondamentalement, ça revient à connaître Dieu, être réconforté par qui il est. Et Paul prie ardemment pour les Colossiens que la connaissance de l'Évangile soit pas simplement une connaissance théologique de ce que c'est l'Évangile, mais que cet Évangile est conduit à Jésus et par Jésus au Père, pour connaître le Père tel qu'il est et lui faire confiance. Et cette vie de maturité est bâtie sur ce roc, cette connaissance de Dieu. Un roc où on sait qu'il est fidèle, il sera fidèle à ses promesses. Et du coup, on peut espérer, on persévérera dans la foi, on aimera nos frères et sœurs, on espérera vraiment parce qu'on sait qu'il est fidèle à ses promesses. Il est un Père qui nous aime, qui patiente avec nous, qui sera fidèle à ses promesses. Ça, c'est notre besoin fondamental si on veut progresser dans la vie chrétienne, connaître Dieu tel qu'il est. Et on peut se demander, peut-être en fin de message, est-ce qu'on voit ça comme notre besoin fondamental si on veut grandir? Cette connaissance de Dieu, notre Père, en Jésus. Parfois, on pense qu'on veut faire des choses dans la vie, on veut devenir mieux pour faire des choses, des exploits spirituels, des missions, des œuvres, de bonnes choses, quoi. Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, Jésus nous explique que la vie éternelle, c'est connaître le Père et le Fils. Et je pense qu'au-delà de ces choses qu'on peut faire, Dieu s'intéresse à ce qu'on le connaisse vraiment, tel qu'il est. Et c'est ça qui va nous aider, c'est ça ce qui sera le moteur de notre maturité, de cette foi persévérante, jour après jour, dans les hauts et les bas de la vie, cet amour parfois coûteux pour nos frères et sœurs, cette espérance qui persévère, qui dit, voilà, je sais que le meilleur m'attend. Tout ça vient d'une connaissance de Dieu en Jésus-Christ, qui nous vient par l'Évangile. Donc, on a besoin de revenir sans cesse à cet Évangile qui nous révèle le Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Paul veut encourager les Colossiens. Vous êtes sur la bonne voie. Je vois déjà ces marques. La foi, cet amour, cette espérance. Donc, continuez. N'ajoutez pas autre chose. Vous êtes sur cette bonne voie. Je vais prier et prier que le Seigneur nous aide aussi dans ce domaine. Notre bon Père Céleste, merci de ce que dans ton amour, tu nous as donné des Épaphras modernes qui nous ont parlé de Jésus, qui nous ont parlé de l'Évangile, de cette grâce inouïe, ce pardon en lui. Et en Jésus, on t'a rencontré, Père. Tu es patient, tu es bon, tu es généreux, oui, tu es fort, tu es puissant, tu es saint, mais tu nous aimes. Tu nous as donné le sauveur qu'il nous faut. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider à te faire confiance, à progresser dans notre connaissance de ta personne, de tes voies, ce que tu es en train de faire, pour que nous puissions te connaître davantage et grandir dans notre foi. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.